Hélène Sauvignon avec Didier Mélière.
Question de vie donne la parole au professeur Didier Mélière pour 10 entretiens consacrés à transmettre à un public les fondamentaux de notre foi. L'objectif est de nous former à une manière de parler en public qui ait les meilleures chances de captiver et de convaincre nos interlocuteurs. Je rappelle que Didier Mélière a, durant un tiers du siècle, enseigné la chirurgie des artères. Ensuite, il a créé et dirigé durant 10 ans le service d'optimisation des homilies qui a aidé plus de 1200 prédicateurs à perfectionner leur manière de parler en public. Enfin, il est l'auteur du livre « Homélie et prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner ». Ce deuxième entretien est consacré aux outils pour captiver. Lors du premier entretien, nous avons découvert les 5 secrets d'une bonne communication lorsqu'on veut transmettre quelque chose de très important. Or, qu'y a-t-il de plus important que la foi qui nous anime? Rappelez-nous ces 5 secrets, Didier.
Premièrement, donner envie aux auditeurs, l'envie d'écouter. Deuxièmement, se mettre à leur place. Troisièmement, bien articuler et parler lentement pour leur laisser le temps d'absorber. Quatrièmement, se centrer sur un objectif précis. Cinquièmement, utiliser de bons outils de communication. Donner envie, se mettre à leur place, bien articuler, un objectif précis, de bons outils. Ce n'est pas facile de donner envie à des hommes ou à des femmes qui ont 1000 autres préoccupations. À des jeunes qui vivent sur Internet, saturés d'informations, très matérialistes. Pas facile de tourner vers l'éternel des gens ne connaissant que l'éphémère. Pas facile d'ouvrir à l'invisible ceux qui ne pensent qu'au matériel. C'est la raison pour laquelle il va falloir utiliser de bons outils. Dans tous les métiers, on a besoin d'outils, pas seulement en chirurgie vasculaire. Je vais donc vous décrire les outils de communication ACMA. A, 2 fois C, MA. Ces outils vont faire que vos auditeurs, au lieu d'avoir l'impression que vous parlez devant eux, vont ressentir que vous parlez à eux. Voyons d'abord comment marche la transmission. Toute communication comporte un émetteur, l'orateur, des messages et des récepteurs. Les récepteurs, ce sont les auditeurs. Émetteur, message, récepteur. Orateur, message, auditeur. Examinons le cheminement d'un message dans les cerveaux des auditeurs. La réception, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un phénomène purement passif. Le message va passer par 5 étapes et chacune nécessite une action du cerveau, donc un effort de la part des auditeurs. Il faut leur donner l'envie de faire cet effort.
Donc l'orateur doit donner envie de travailler à ces 5 étapes, donc doit leur donner envie de faire un acte volontaire. Mais quelles sont ces 5 étapes?
La première, c'est entendre. Ça peut paraître idiot, mais il n'est pas toujours évident pour celui qui est un peu sourd ou celui qui est distrait. Une personne consultant son téléphone en traversant la rue peut ne pas entendre la voiture, pourtant bruyante, et terminer à l'hôpital. En second, écouter. On peut entendre sans écouter. Quelle épouse excédée n'a pas un jour demandé à son mari planté à la télévision devant un match de foot « Répète un peu ce que je viens de dire ?» Celui-ci en est incapable. Il a entendu les sons, mais il n'a pas écouté. Pour écouter, il aurait fallu qu'il fasse attention. En troisième, comprendre, c'est-à-dire avec les sons, faire des mots, et avec les mots, construire des idées. Toute activité du cerveau nécessite un effort. Pour faire cet effort, il faut le vouloir. L'orateur doit provoquer cette volonté d'effort. En premier, entendre, en second, écouter, en troisième, comprendre, en quatrième, mettre en mémoire. En mémoire pour se souvenir. Cela aussi nécessite un travail volontaire du cerveau. Chacun sait qu'on peut avoir compris, mais n'avoir rien retenu. L'orateur aurait très bien pu rester chez lui. Dernière étape, se positionner. Cette étape, la plus importante, est celle qui demande le plus de travail à l'auditeur. Il doit, pas à pas, analyser le contenu du message, le comparer aux idées concurrentielles, les autres convictions, le relativisme, l'hédonisme, les grandes sagesses, les autres religions, et enfin, choisir. Se positionner, C'est analyser, comparer, choisir. Choisir entre quoi ? Entre rejet, indifférence ou adhésion. Les outils de communication ont pour objet d'inciter le cerveau à effectuer ces 5 étapes et si possible jusqu'à l'adhésion. Lorsque l'orateur parle devant ses auditeurs, il y a de grandes chances qu'il ne se sente pas concerné et qu'il s'endorme. Les outils de communication servent à leur faire prendre conscience que vous leur parlez à eux et que ce que vous allez leur dire est très important pour eux.
Question de vie, Hélène Sauvignon s'entretient avec Didier Mélière.
Alors, quels sont ces outils ACMA ? Énumérons-les. Nous les approfondirons durant les entretiens suivants. Le A initial signifie accrocher. Accrocher, c'est susciter l'intérêt dès le départ. C'est créer la complicité qui donne l'envie d'écouter la suite. Nous verrons qu'il y a 7 manières d'accrocher. Il faut intéresser dès le premier instant. Le premier C signifie convaincre les intelligences. Nous verrons que cela nécessite de se limiter à un objectif précis et à quelques messages, d'utiliser un plan clair et des mots connus des auditeurs. De nourrir chaque partie du plan en évitant les digressions inutiles. De chercher à les faire réfléchir. Le deuxième C signifie convaincre les cœurs. Pour cela, il faut varier la voix, montrer son empathie pour les auditeurs en les regardant vraiment et accompagner les paroles avec des gestes et des expressions du visage qui soient justes. Le M signifie les aider à mémoriser. Une série de moyens les aideront à se souvenir, en premier lieu les répétitions à des moments bien choisis. Le A final signifie activer au sens de entraîner à un agir chrétien. Autrement dit, passer de la théorie à la mise en pratique. Notre foi n'est pas une opinion, c'est un engagement de tout notre être.
Celui qui va faire un exposé ou une homilie, pour bien transmettre à ses auditeurs, doit-il donc travailler la forme en plus du fond ?
C'est ce qu'a écrit le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Écoutons-le. Je le cite. La préparation de la prédication est une tâche si importante qu'il convient d'y consacrer un temps prolongé d'études, de prières, de réflexion et de créativité pastorale. Certains curés soutiennent souvent que cela n'est pas possible en raison de la multitude des tâches qu'ils doivent remplir. Cependant, j'ose demander que chaque semaine, un temps personnel et communautaire, suffisamment prolongé, soit consacré à cette tâche, même s'il faut donner moins de temps à d'autres engagements, même importants. La confiance en l'Esprit-Saint qui agit dans la prédication n'est pas purement passive, mais active et créative. Un prédicateur qui ne se prépare pas n'est pas spirituel. Il est malhonnête et irresponsable envers les dons qu'il a reçus. Il ajoute: certains croient pouvoir être de bons prédicateurs parce qu'ils savent ce qu'ils doivent dire, mais ils négligent le comment, la manière concrète de développer une prédication. Ils se fâchent quand les autres ne les écoutent pas ou ne les apprécient pas. Mais peut-être ne se sont-ils pas occupés de chercher la manière adéquate de présenter le message. Rappelons-nous, ajoute-t-il, que l'importance évidente du contenu de l'évangélisation ne doit pas cacher l'importance des voies et des moyens. Fin de citation.
Donc ces voies et ces moyens sur lesquels insiste le pape dans Evangelii Gaudium, n'est-ce pas la raison d'être de la méthode ACMA, A-C-C-M-A ? Mais alors, est-ce que la communication orale ne demanderait pas davantage de travail préparatoire, que la rédaction d'un écrit?
Hélène, ce sera l'objet du prochain entretien.